Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de méditer sur le texte de l'Évangile que nous entendrons dimanche prochain à l'occasion de la solennité de la Sainte Trinité. Il s'agit de la finale de l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 28, les versets 16 à 20. Nous sommes après la résurrection de Jésus à Jérusalem et il a donné un rendez-vous à ses disciples en Galilée. Commençons par écouter le texte. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. » Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Fin de la lecture et fin de l'Évangile de saint Matthieu. Voilà que nous revenons en Galilée, là où le ministère public de Jésus avait commencé pour accomplir la parole du prophète Isaïe. Cela nous était rappelé au chapitre 4, le verset 14 à 16. « Terre de Zabulon et terre de Naphtali, route de la mer, pays de Transjordan, Galilée des nations, le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, une lumière s'est levée. » Là où la lumière de Jésus, la lumière de son enseignement s'était déployée pour apporter la bonne nouvelle à Israël, la lumière du ressuscité revient pour que la lumière soit apportée à toutes les nations. C'est un retour au lieu du départ pour amorcer un nouveau départ. Désormais, ce ne seront plus seulement les brebis perdues de la maison d'Israël qui seront concernées, mais c'est toutes les nations qui vont être visées. Ce rendez-vous en Galilée avait été annoncé par Jésus lors du dernier repas à ses disciples et avait été rappelé par les anges. C'est là en Galilée que vous le rencontrerez comme il vous l'a dit. Nous apprenons dans ce passage quelle est la mission que reçoivent les 11. Cette mission, c'est de faire des disciples. Dans le texte grec, seul le verbe « faire des disciples » est à l'impératif. Les deux autres verbes, traduits dans notre texte « baptisez-les » et « apprenez-leur à observer », sont littéralement dans le texte grec des gérondifs. On aurait pu traduire de la façon suivante. De toutes les nations, faites des disciples en les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Ça signifie que le cœur de l'action demandée par Jésus, c'est de faire des disciples, et qu'il donne pour cela une méthode en deux temps, en deux points, le baptême, les baptiser, et un apprentissage des commandements que Jésus leur a donnés. Cela signifie que pour faire des disciples, il faut d'une part un don de Dieu, c'est le baptême, ça c'est vraiment produit par Dieu avec le concours des disciples, mais celui qui reçoit le baptême est dans une position, on pourrait dire, passive. C'est pas lui qui produit cette grâce, il reçoit cette grâce. Et il reçoit, notons-le, une grâce trinitaire. Vous voyez, dire « baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », ça signifie qu'on a une conscience de la Trinité. Même si à l'époque où Matthieu écrit, on n'a pas encore les développements trinitaires qui vont arriver dans les siècles qui suivent, il y a déjà une conscience très claire de la Trinité, parce que dans le monde juif, on ne peut pas mettre Père, Fils et Esprit au même niveau si on ne considère pas que Père, Fils et Esprit sont Dieu. Si vous mettez quelque chose au niveau de Dieu qui ne serait pas Dieu, c'est un blasphème. Cette formule baptismale, ça vaut le coup de s'arrêter dessus, est un signe clair de la conscience de la Trinité, de la divinité du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, dans la première communauté chrétienne, même s'ils n'ont pas encore tout le vocabulaire théologique qui sera produit par la suite. Donc pour faire des disciples, premièrement un don de Dieu, mais deuxièmement, il va y avoir un apprentissage. Et un apprentissage, ça veut dire qu'il va y avoir, on pourrait dire, un aller-retour, une collaboration entre les disciples qui ont reçu eux-mêmes cet enseignement, qui ont appris à observer les commandements de Jésus, et ceux qui se font disciples des disciples pour être disciples de Jésus, et qui apprennent, donc qui vont engager leur intelligence, qui vont engager leur volonté, qui vont engager leur persévérance, pour que les commandements de Jésus viennent imprégner, viennent formater, viennent habiter leur existence. Et là, toute leur liberté, toute leur ressource, toute leur ingéniosité va être mobilisée. Faire des disciples implique à la fois un don de Dieu et une implication, une introduction à la collaboration de la liberté de celui qui devient disciple, pour qu'il apprenne et qu'il mette en œuvre les commandements de Jésus dans sa vie. Je voudrais maintenant souligner un aspect très audacieux de ce texte et très honnête de ce texte. C'est la phrase « Quand ils le virent, quand les onze virent Jésus ressuscité, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. » On pourrait même choisir de traduire « Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais ils eurent des doutes. » On pourrait même ne pas le réduire à certains, on pourrait même le prendre comme tous ces onze disciples eurent des doutes. C'est fascinant et extraordinaire de voir que l'évangéliste ne cache pas la difficulté, que l'évangéliste fait face au problème de la communauté. On aurait pu avoir envie, pour terminer un évangile, de donner une description des disciples devenus comme une espèce de surhomme, sans plus aucun doute, sans au plus aucune fragilité. Non, ils voient Jésus, à la fois ils se prosternent, c'est un acte d'adoration, et en même temps, ils ont des doutes. Il y a un combat qui demeure dans leur cœur. Et c'est quelque chose qui va parler aussi à la première communauté qui peut, en même temps qu'ils reçoivent la bonne nouvelle et qu'ils croient en Jésus, être assailli à certains moments de doutes. Mais pour bien comprendre ce que recouvre cette notion de doute, il faut remarquer que dans l'Évangile selon saint Matthieu, ce terme de doute n'est utilisé qu'une seule autre fois. C'est au chapitre 14 de l'Évangile selon saint Matthieu, lors de l'épisode où Jésus approche la barque des disciples en marchant sur les eaux et où il demande à Pierre de le rejoindre. Vous vous souvenez, Pierre était descendu de la barque, avait commencé à marcher sur les eaux, puis voyant le vent, il prend peur et il commence à couler. Il s'écrie « Seigneur, sauve-moi !» Et Jésus tend la main, le saisit, le ramène à la barque, et c'est là qu'il lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Voilà le lieu où on trouve cet usage du mot « doute » dans l'Évangile selon saint Matthieu. On remarquera aussi que cet épisode portait déjà des tonalités de résurrection. Jésus qui marche sur les eaux, symboliquement, peut être interprété comme Jésus marchant sur les eaux de la mort, comme un signe de la résurrection, surtout que Jésus marche à leur rencontre, va à leur rencontre lors de la dernière veille, c'est-à-dire le moment de l'aube, comme Jésus ressuscite au petit matin. Donc il est légitime de s'éclairer par ces deux épisodes. Or, le terme de doute utilisé par Jésus en Matthieu 14 vient dans une situation où on n'est pas face à un Pierre qui aurait une absence de foi. Jésus l'appelle homme de peu de foi, c'est-à-dire qu'il a effectivement une foi, mais c'est une foi qui est encore petite. Et donc, ça vient désigner un état où sa résolution n'est pas complètement ferme. Dans sa décision de suivre Jésus, il y a encore des hésitations, et ces hésitations le rendent vulnérable à la peur. Et c'est lorsqu'il se laisse saisir par la peur devant les difficultés, c'est à ce moment-là qu'il coule. Et donc il nous faut comprendre qu'au chapitre 28, lorsqu'on utilise ce terme « doute », ça désigne non pas une absence de foi, mais une hésitation encore dans la résolution, une vulnérabilité à la peur, une vulnérabilité à la peur face aux obstacles que l'on pourrait rencontrer. Eh bien, Jésus va prendre au sérieux cette peur, cette hésitation, ce manque de résolution qui peut tarauder le cœur de ses disciples. D'autant plus qu'on a souligné qu'ils ne sont plus que 11 à ce moment-là. Cela souligne justement que Judas a quitté sa place. Et donc, la réalité de ce manque de résolution en a fait disparaître l'un parmi eux. Il pourrait s'interroger, ne risquerais-je pas d'être le prochain Judas ? Rappelez-vous comment il s'était interrogé, « Serais-ce moi, Seigneur ?» quand Jésus avait annoncé que l'un d'entre eux allait le trahir. Jésus prend cette fragilité au sérieux. Remarquez qu'ici, Jésus ni ne les raille, ni ne les gronde. Il va leur apporter un double réconfort. Le premier réconfort, c'est l'affirmation de son autorité. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Celui qui leur parle et celui qui les envoie en mission est celui qui a reçu tout pouvoir de la part de Dieu, de la part du Père, au ciel et sur la terre. Leur mission est investie de l'autorité de Jésus reçue du Père. » Premier réconfort. Cette autorité rappelle d'ailleurs l'autorité de Jésus au chapitre 14, quand il avait dit à Pierre « Viens » et que Pierre avait vraiment commencé à marcher sur les eaux. Le deuxième réconfort concerne sa présence. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous vous souvenez, quand Pierre commençait à couler, il s'était écrié « Seigneur, sauve-moi !» Jésus avait étendu la main pour le saisir. Jésus était présent. Et ici, Jésus s'est approché d'eux, et Jésus leur promet « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc ils ne sont pas seuls. Ce Jésus qui n'avait pas laissé Pierre se noyer ne nous laissera pas non plus nous noyer dans la mission qu'il nous a confiée. Peut-être que nous aussi, il nous semble manquer de résolution, il nous semble être fragile. Peut-être sommes-nous comme Pierre qui avait commencé à couler, et peut-être recevons-nous cette parole de Jésus, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mais de la même façon, Jésus tend la main, nous saisit, est présent avec nous pour que nous puissions regagner la barque et continuer la mission qu'il nous a donnée. Que ce texte soit pour nous une occasion de demander à grandir dans la foi, car il est fidèle à nos côtés, celui qui nous envoie. Je vous souhaite de bons échanges.